Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
Nous sommes dans les dernières étapes de la route vers Saint-Jacques. Sa femme l'ayant rejoint, Jean-Christophe Ruffin décide d'emprunter une variante du Camino Frances. Il faisait très chaud quand nous nous mîmes en route. Azeb était encore pleine d'énergie. Le lent défilement des kilomètres ne l'avait pas encore usé. Elle en était au stade où la distance étalon, ce fameux et entêtant kilomètre, lui paraissait courte. Déjà un kilomètre ! Tel est le cri du marcheur novice. Tandis que, pour le pèlerin aguerri, le refrain assourdi, décourageant, serait plutôt « Il n'en finit pas ce kilomètre ». Le beau temps enrobe le drame comme la boulette de viande dissimule le poison. Le ciel bleu sans nuages, la terre blonde de blé ras, les boules d'ensilage avec leurs plastiques blancs et noirs posés sur le damier des champs, les jolies courbes du ruban de bitume, tout concourait à rendre le paysage débonnaire et rassurant. Je nous engageais sur la variante sans montrer ma légère appréhension. Au début, tout alla pour le mieux. Des flèches jaunes à intervalles réguliers, des bornes à coquilles, témoignaient de ce que mes compagnons avaient dit vrai. La variante était balisée. Hélas, après quelques kilomètres, le marquage devint moins clair. Je ne laissais pas paraître mon trouble et, avec un air viril et compétent, j'indiquais sans hésitation la direction à prendre. Elle nous fit aboutir dans une cour de ferme où deux molosses, littéralement déchaînés, nous accueillirent toutes dents dehors. Azeb, qui n'a vraiment peur de rien dans la vie, sauf des chiens, fit demi-tour en courant. Je la suivis et minimisai l'incident, une faute d'inattention. Au premier embranchement, je choisis une nouvelle direction. Il fallut vite me rendre, hélas, à l'évidence. Aucun signe jacquaire par là non plus, des croisements incertains, des chemins tous semblables et aucun amer à l'horizon pour nous orienter. Nous étions bel et bien perdus. Quelle que fût mon assurance, un certain désarroi était perceptible dans mon attitude. Ma femme, qui me connaît bien, ressentit les premières alertes d'un mal connu. « Tu as encore pris un raccourci ?» me dit-elle, sur le ton navré qu'on emploie pour déplorer la rechute d'un alcoolique. À ma réponse embarrassée, elle conclut logiquement que, une fois de plus, et ceci dès le premier jour de marche, je l'avais embarqué dans une galère. Je tentais de faire défiler à la barre quelques témoins pour ma défense. Je sortis une carte, tripotai ce qu'il restait du guide dont j'avais déchiré la plus grosse partie au fil du chemin. Ses gesticulations masquaient mal la réalité, nous ne savions pas où nous étions. À cette heure de midi, il n'y avait pas âme qui vive sur le chemin et les hameaux étaient déserts. La soif commençait à nous tenailler. Finalement, nous parvînmes à un croisement, une route goudronnée et, sur une borne, le nom d'un village digne d'être répertorié sur la carte. Hélas, il était situé sur le chemin français et, en forcené que je suis dans ces cas-là, je tenais à ma variante. En faisant preuve d'une éloquente mauvaise foi, je parvins à convaincre Azeb de partir dans l'autre direction. Nous rejoindrions par là le bourg situé sur la variante dans lequel j'avais prévu de dormir. Malgré sa méfiance, elle accepta et nous nous élançâmes dans l'ombre très relative du bas-côté. La route était droite, un faux plat interminable. Les arbres d'abord fournis se clairsemèrent et bientôt plus rien ne nous protégeait du soleil à son zénith. Mon premier mensonge fonctionna. Je prétendis qu'en haut de la côte, on ne tarderait pas à apercevoir le village où nous devions passer la nuit. Mais, en haut de la côte, on ne découvrait qu'une autre côte. Pas une maison aux alentours, des chants monotones, roussie par le soleil. Les malheurs, on le sait, vont en troupe. À notre égarement et à la chaleur s'ajouta bientôt la soif, car je n'avais pas pris assez d'eau. L'intention était louable, ne pas charger davantage les mochilas. La conséquence, une fois la dernière goutte bue, fut d'installer immédiatement entre nous angoisse et mauvaise humeur. En haut de la troisième côte, j'étais à court de mensonges et nous avions épuisé l'eau depuis longtemps. L'orage éclata. Pas celui du ciel qui nous aurait rafraîchi. Un orage plus terrible de l'espèce conjugale. Je n'étais qu'un incapable. Pourquoi refusais-je de suivre le chemin normal? On ne pouvait pas me faire confiance, etc. D'un coup, toute mon expérience de pèlerin s'effondra. Le plus affreux dans cette erreur était non seulement qu'elle nous avait égarés, mais aussi qu'elle portait le discrédit sur tout mon voyage. Quoi que je puisse en dire, ma brillante démonstration d'incompétence montrait que je ne restais qu'un amateur. Nous eûmes en bordure de route une explication violente. Je craignis un instant que les bâtons de marche dont ma compagne s'était munie ne fussent utilisés pour m'estourbir. Finalement, je parvins à la faire renoncer à rebrousser chemin. J'obtins que nous continuions à la condition de faire de l'autostop tout en marchant. C'était une faible concession, car il ne passait presque personne à ces heures chaudes. Nous reprîmes donc notre marche avec, pour seule consolation, nos pouces levés. Deux voitures passèrent à fond de train sans s'occuper de nous. Il n'y avait toujours pas de village en vue. Enfin, au bout d'un long moment, nous vîmes apparaître à l'horizon de la route, derrière nous, un véhicule très lent qui s'avéra être un camion. Miracle, il s'arrêta. L'habitacle était petit et les deux hommes qui l'occupaient se poussèrent pour que nous puissions monter en prenant nos sacs sur les genoux. Nous étions sauvés. Cependant, assez vite, nous fûmes gagnés par une nouvelle inquiétude. À chaque virage, le camion tanguait dangereusement et nous entendions un bruit de cavalcade, des chocs sourds et précipités venus de l'arrière. Le chauffeur était agrippé à son volant et tenait péniblement le cap en imprimant de larges mouvements à la direction. Rassemblant assez d'espagnols pour me faire comprendre en quelques mots, je demandai à l'équipage ce que transportait le petit camion. Trois taureaux. Les pauvres bêtes, prises de panique à chaque virage, battaient des sabots de tout leur poids sur le plancher du camion. Cette révélation nous laissa silencieux. Nous comprenions mieux les efforts faits par le chauffeur pour tenir son cap malgré l'agitation furieuse de ces bêtes d'une tonne. Le paysage défilait lentement. Il était magnifique, mais révélait surtout une évidence. Si nous avions poursuivi à pied, il nous aurait fallu de longues heures de souffrance pour parvenir enfin à destination. Le bourg où nous allions était d'ailleurs plus grand que prévu et nous aurions encore mis longtemps pour le traverser. Enfin, nous nous arrêtâmes sur la place centrale. Les taureaux saluèrent notre arrivée par une dernière salve de coups de sabot, nous éclairant au passage sur les origines possibles du flamenco. Quelques hommes assis sur des bancs à l'ombre nous regardèrent descendre et nous tâchâmes, malgré les circonstances, de conserver un semblant de naturel, voire de dignité. L'énorme camion redémarra avec ses bovins. Nous étions sauvés.
C'était Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.